Savoie, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Édition du jeudi 23 novembre 2017. Thanksgiving Day, journée d'action de grâce et jour férié ici aux États-Unis. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, report de la marche que l'opposition projetait pour le 28 novembre.
Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ancien bras droit de Robert Mugabe, prêt à assumer la présidence dès demain.
Le président français Emmanuel Macron qualifie de crime contre l'humanité les ventes de migrants africains comme esclaves en Libye.
Le Rwanda se dit, lui, prêt à accueillir jusqu'à 30 000 de ces migrants africains.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson qualifie pour la première fois de nettoyage ethnique la violence contre les Rohingyas en Birmanie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, l'opposition reporte de 2 jours sa marche pacifique pour éviter des accrochages avec la majorité présidentielle qui projette d'organiser une activité similaire le même jour. La marche du rassemblement, initialement annoncée pour le mardi 28 novembre, est donc renvoyée au jeudi 30 novembre. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est après 2 jours de séminaire visant à définir des stratégies concrètes pour la résolution de la crise en RDC que le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a décidé de décaler de 2 jours sa marche pacifique. En effet, après avoir annoncé une marche pour le 28 novembre prochain dans le but d'exprimer le rejet du calendrier électoral et réclamer le départ de Joseph Kabila du pouvoir au 31 décembre 2017 si les élections ne sont pas organisées, la majorité présidentielle a également, par son secrétaire général adjoint, saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa pour lui annoncer l'organisation d'une marche pacifique à la même date, visant cette fois à soutenir le calendrier électoral publié le 5 septembre dernier par la CENI. Le rassemblement que dirige Félix Tshisekedi avait alors parlé de provocation. Pour éviter des accrochages et pour éviter qu'on mette sur notre dos d'éventuels incidents que cela pourrait provoquer, nous avons décidé de repousser notre marche de 2 jours, nous a dit un cadre de cette plateforme politique. La réaction de la ville de Kinshasa qui a récemment pris une mesure interdisant jusqu'à nouvel ordre ce genre de manifestations politiques reste attendue. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a salué le début d'une nouvelle démocratie dans son pays au lendemain de la démission historique du président Robert Mugabe dont il s'apprête à prendre la délicate succession demain. Morgane Guiriec nous en dit plus.
De retour d'un bref exil sud-africain, M. Mnangagwa a prononcé son premier discours de futur président devant des centaines de partisans réunis devant le siège du parti au pouvoir, la ZANU-PF.
Today, we are witnessing the beginning of a new and unfolding democracy.
Aujourd'hui, nous sommes les témoins du début d'une nouvelle démocratie, a-t-il lancé, avant d'appeler tous les patriotes du Zimbabwe à travailler ensemble. Selon le scénario écrit par la ZANU-PF, l'ex-vice-président déchu doit prendre officiellement les rênes du pays vendredi, d'après le président de l'Assemblée, Jacob Mudenda. Fidèle de l'ancien président et de son régime, ce héros de la guerre d'indépendance, plusieurs fois ministre, avait été sèchement remercié le 6 novembre dernier, sur injonction de la première dame Grace Mugabe, à qui il barrait la route de la succession de son nonagénaire de mari.
Le président français Emmanuel Macron a qualifié hier de crime contre l'humanité les ventes de migrants africains comme esclaves en Libye, révélées par la chaîne américaine CNN. La dénonciation par la France est sans appel et il faut que nous puissions aller beaucoup plus loin pour démanteler les réseaux de trafiquants, a déclaré M. Macron après une rencontre au Palais de l'Élysée à Paris avec le président de la Guinée et de l'Union africaine, Alpha Condé. Le point avec Eric Manirakidza.
Emmanuel Macron a déclaré que les récentes images de la chaîne américaine CNN illustrent bien la traite des êtres humains. Il estime que ce trafic nourrit les délinquances les plus graves et les réseaux terroristes. Il a aussi insisté sur la nécessité d'aller beaucoup plus loin pour démanteler ces réseaux en coopérant avec tous les pays de la région. Le président guinéen et président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a lui aussi qualifié cette situation de scandaleuse et d'inacceptable. Il a critiqué la coopération entre les Européens et les autorités libyennes pour freiner les flux migratoires. D'après M. Condé, les réfugiés sont dans des conditions extrêmement graves et la Libye ne devait pas garder les immigrés. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a de son côté précisé que la résolution de ce drame ne peut avoir lieu en l'absence d'une solution politique en Libye. La France a demandé la réunion express du Conseil de sécurité des Nations Unies pour aborder cette question. L'Organisation internationale des migrations OIM et le Haut-Commissariat aux réfugiés HCR devront donner dans ce cadre leur expertise sur l'état réel de la situation en Libye et la traite des migrants.
Pour sa part, le Rwanda s'est dit prêt à accueillir jusqu'à 30 000 migrants africains vivant dans des conditions inhumaines en Libye. C'est ce qu'a annoncé hier la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, en soulignant que son pays, comme le reste du monde, a été horrifié par la tragédie actuellement en cours en Libye. Étant donné la philosophie politique du Rwanda et notre propre histoire, nous ne pouvons pas rester silencieux quand des êtres humains sont maltraités et vendus aux enchères comme du bétail, a-t-elle ajouté, dans une allusion évidente au génocide qui a fait plus de 800 000 morts en 1994 au Rwanda.
En Ouganda, 8 directeurs et rédacteurs en chef de journaux tabloïdes ont été arrêtés à Kampala pour publication d'un article présenté comme mensonger et portant sur l'implication présumée du président ougandais Yoweri Museveni dans un complot visant au renversement de son homologue rwandais Paul Kagame. L'article, dont une première version avait été publiée par des médias rwandais, a été repris par Red Pepper et ses filiales ougandaises. Non seulement cet article est faux, mais en plus il constitue une menace pour la sécurité régionale, selon un porte-parole de la police ougandaise.
En Guinée, le parquet a demandé hier à des mouvements, à des syndicalistes de l'enseignement d'arrêter leur mouvement de grève lancé le 13 novembre, émaillé de manifestations violentes, a appris l'AFP auprès des intéressés. Le calme était revenu mercredi dans les rues de la capitale Conakry, a constaté un correspondant de l'agence de presse, après 2 jours de heurts entre jeunes manifestants et forces de l'ordre qui ont coûté la vie à 2 adolescents lundi et mardi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a qualifié de nettoyage ethnique la violence contre la minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie, après ce qu'il a appelé dans un communiqué une analyse attentive et approfondie des faits disponibles. Les officiels américains enquêtent depuis le début de la crise sur les raisons des attaques qui ont tué des centaines de Rohingyas et forcé plus de 600 000 autres à se réfugier au Bangladesh. C'est la première fois que le département d'État américain parle de nettoyage ethnique en Birmanie, mais cette dénonciation n'avait aucune implication légale, a dit un porte-parole qui a expliqué que cela met l'accent sur notre préoccupation et sur le sentiment d'urgence autour de cette crise.
En Syrie, une solution politique de la crise serait-elle en vue maintenant? En tout cas, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a reçu ses homologues turcs et iraniens et les trois sont tombés d'accord sur la tenue d'un congrès entre l'opposition et le régime syrien, Eddie Isango.
Vladimir Poutine a estimé à l'issue de la rencontre à Sochi avec ses homologues turcs Recep Tayyip Erdogan et iranien Hassan Rouhani qu'un congrès réunissant en Russie, régime et opposition syrien sera un stimulant pour le processus de Genève. Les trois chefs d'État se sont mis d'accord sur la tenue prochaine d'un tel congrès. Une telle rencontre aurait pour ambition notamment de donner une nouvelle constitution à la Syrie ou du moins une issue politique au conflit qui déchire les pays depuis 2011. Mais les obstacles demeurent. Moscou veut inviter les Kurdes de Syrie à la table des négociations. La Turquie refuse catégoriquement. Ces sommets marquent les débuts d'une nouvelle séquence diplomatique avec Vladimir Poutine à la manœuvre. L'initiative diplomatique a débuté lundi avec la visite surprise de Bachar el-Assad à Sochi. Elle s'est poursuivie mardi avec un entretien téléphonique avec les présidents russes et Donald Donald Trump. Vladimir Poutine accélère la cadence alors que vont débuter à Genève de nouvelles négociations intersyriennes.
La coalition dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen a annoncé mercredi la réouverture du port de Hodeida et de l'aéroport de Sanaa pour l'aide humanitaire après des appels pressants de l'ONU pour faciliter la reprise des opérations de secours dans le pays en guerre. Elle avait imposé un blocus total au Yémen après le tir le 4 novembre d'un missile balistique par les rebelles qui contrôlent Hodeida et Sanaa en direction de l'Arabie Saoudite. L'engin avait été intercepté au-dessus de l'aéroport international de Riyad. Selon l'ONU, le pays connaît la pire crise humanitaire de la planète. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Lily Dico.
Bénin, le géant sud-africain des télécoms MTN a été sommé de payer 134 milliards de francs CFA de redevances impayées aux autorités béninoises. Selon la copie de la décision datée du 17 novembre, ces redevances annuelles sont dues pour la gestion et l'utilisation de fréquences. Cette mise en demeure intervient alors que le directeur général de MTN Bénin, Stephen Blewit, de nationalité sud-africaine, s'est vu retirer son titre de séjour et sommé de quitter le territoire béninois. Sénégal, le gouvernement a signé un contrat de 100 milliards de francs CFA avec la compagnie tchèque Transcon pour réhabiliter les aéroports régionaux du pays. Selon l'agence Ecofin, le contrat s'étalera sur une durée de 47 mois. Il permettra de moderniser les aéroports de Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. Cameroun, les importations ont baissé de 13,4% en 2016 selon les statistiques du Comité technique national de la balance des paiements. Cette réduction des importations s'explique par le dynamisme du secteur de la pêche, qui a permis de baisser les importations de poissons de mer congelés, mais aussi par la hausse de la production de ciment local, dont les importations ont baissé de 91%.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
En Ligue des Champions, Paris bat tous les records.
Eh oui, le Paris Saint-Germain a établi un nouveau record en s'imposant largement contre la faible équipe du Celtic Glasgow. 7-1 au Parc des Princes. Neymar et Cavani ont chacun inscrit un doublé. Au total, tenez-vous bien, Paris a inscrit 24 buts en 5 rencontres. C'est déjà 3 de mieux que le précédent record établi par le Borussia Dortmund il y a un an avec 21 buts en 6 matchs. Victoire du Bayern Munich contre Anderlecht, 2-1. Manchester United a été battu à Bâle, 1-0 et devra attendre la dernière journée pour assurer sa qualification pour les huitièmes de finale. Le CSKA qui a battu le Benfica Lisbonne, 2-0, compte 9 points après 5 journées et se relance. Demi-finaliste la saison dernière, l'Atlético Madrid peut encore croire aux huitièmes de finale de cette Ligue des Champions après sa victoire contre l'AS Rome, 2-0. A noter la passe décisive et le but magnifique d'Antoine Griezmann. Chelsea a validé son billet pour les huitièmes de finale en s'imposant à Karabakh, 4-0. Eden Hazard a été brillant en obtenant le nul 0-0 sur la pelouse de la Juventus Turin. Le FC Barcelone s'est lui aussi qualifié. La Juve n'a pas encore validé son billet. Dans l'autre match du groupe D, le Sporting Portugal a assuré sa place en Ligue Europa en dominant l'Olympiakos 3-1.
Les joueurs du Nigeria vont recevoir plus de 2,5 millions de dollars de primes de qualification pour le Mondial.
Qualifiés pour le Mondial 2018 en Russie, les internationaux nigérians vont toucher cette prime de qualification, annonce la fédération. Cette somme équivaut à 30% des 8 millions de dollars donnés par la FIFA pour la qualification. On se souvient, Idrissa, du couac de la Coupe du Monde 2014 au Brésil qui avait obligé le ministre des Sports de l'époque à se rendre en urgence au Brésil à bord d'un jet privé avec, tenez-vous bien, près de 4 millions de dollars d'argent en liquide. Des choses qu'on ne veut pas revoir côté nigérian l'été prochain en Russie.
Ligue Europa ce jeudi.
Arsenal peut assurer la première place du groupe H de la Ligue Europa en cas de match chenu à Cologne, et puis Nice pourra cette fois compter sur Mario Balotelli avant d'affronter Zulte Waregem. Enfin avec vous, Idrissa, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Washington Wizards et Charlotte Hornets, 124-129, Brooklyn Nets et Cleveland Cavaliers, 109-119, Portland Trail Blazers et Philadelphia Sixers, 81-101, LA Clippers et Atlanta Hawks, 116-103, Boston Celtics et Miami Heat 98-104 et Toronto Raptors et New York Knicks 100-108.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sibulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, les enseignants boudent les salles de classe depuis 2 semaines pour appuyer leurs revendications salariales. De leur côté, les élèves sont descendus dans la rue lors d'une manifestation qui a fait un mort lundi. Abdourahmane Dia a joint à Conakry Mohamed Bangoura du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée.
Au lieu de venir, il y a un blocus dans la ministre. Nous n'avons pas eu d'interlocuteur direct avec qui nous allons négocier afin de trouver une favorable à cette crise qui perdure depuis le 13 décembre 2017.
Le gouvernement ne négocie pas avec les syndicats d'enseignants.
Le gouvernement, la grève qui a été déclenchée par une partie du bureau national exécutif du club est considérée comme étant une grève illégale et illégitime selon le gouvernement. Donc, on n'a pas raison d'ouvrir une table de négociation avec une forme de syndicaliste du club. Jour en jour, la grève ne fait que prendre du terrain. Et aujourd'hui, certaines régions de la République de Guinée ont emboîté le pas à la capitale de la crise. Moi, je vais parler de l'Abbé, de Koubia, de Kindia, de Guérétéré, de Cancan, qui aujourd'hui ont observé le mode de grève lancé par le général secrétaire, par le général Aboubakar Souma.
Et qu'est-ce que vous revendiquez?
Bien, nous avons 3 points de revendication dans notre conflit dans notre avis de grève. Le premier, c'est la suspension sans délai des camarades Aboubakar Souma et de Kadia Touba. Ensuite, le maintien de la valeur du point de vue à 1030 et son paiement intégral à la fin de ce mois de novembre 2017. Et pour 3 points, le salaire minimum de base de tous les enseignants de la République de Guinée à 8 millions selon l'article 100 du statut particulier de l'éducation.
Les élèves semblent inquiets. Ils étaient sortis dans la rue cette semaine et il y a même eu une victime. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Le ministre de l'Éducation nationale, dimanche, est passé sur les antennes de la radio-télévision guinéenne en demandant aux parents de laisser les enfants aller à l'école. Comme quoi, nous, le ministère de la Sécurité avait pris des dispositions pour sécuriser les constructions scolaires. Ils ont pris en main et ils ont laissé leurs enfants aller à l'école. Et malheureusement, une fois à l'école, les enfants se sont rendus compte que les enseignants n'avaient pas toujours rejoint les salles de classe.
C'était Mohamed Bangoura du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Cameroun, l'opinion publique s'est appropriée le sujet de la démission du président zimbabwéen Robert Mugabe et pour cause, Paul Biya, son homologue camerounais, est au pouvoir depuis 35 ans, soit 2 ans de moins que Robert Mugabe. C'était évident hier matin, dans les rues de Yaoundé, les colonnes de journaux, les programmes de radio et les réseaux sociaux, comme a pu le constater notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Tap.
Après la démission de Robert Mugabe, certains Camerounais entrevoient aussi un probable scénario pour leur président. Sur les réseaux sociaux, les avis sont sans équivoque là-dessus. Des réactions qui ne surprennent guère Serge Aimé Bikoy, sociologue, enseignant à l'Institut Sciences Supérieures à Yaoundé.
Dans l'imaginaire individuel et collectif, il y a véritablement ce signe que l'on voudrait également générer au Cameroun. Lorsque quelqu'un a fait 30, 32, 33, 34, 35 ans au pouvoir, il y a des signes de lassitude qui sont davantage constatés. Et ça incite véritablement le peuple qui est aujourd'hui renseigné sur ce qui se passe ailleurs, de pouvoir voir comment ça peut également être théâtralisé ici au Cameroun.
Le Cameroun si proche du Zimbabwe, Paul Biya, démissionnaire comme Mugabe, tout le monde ne partage pas cet avis. À chaque nation son histoire, soutient Jean-Baptiste, un jeune militant du parti au pouvoir.
Le Zimbabwe a ses réalités, le Cameroun a également sa part des réalités. Paul Biya du Cameroun n'est pas Robert Mugabe. La femme du président, Paul Biya, n'est pas la femme de Robert Mugabe. Au Cameroun, l'armée ne s'implique pas dans les histoires politiques.
Mais sur les chaînes de radio urbaine à Yaoundé ce jour, la démission de Robert Mugabe déchaîne les passions. Illustration avec ce programme interactif sur Magic FM à Yaoundé.
Nous avons à la tête de nos États des petits despotes qui organisent des pseudo-élections pour se cramponner au pouvoir. Dans un pays où on vous dit qu'un président a été élu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, c'est tout sauf une élection.
Au marché central de Yaoundé, le départ de Mugabe après 37 ans de règne alimente des conversations auprès de commerçants qui s'intéressent à la politique. Et chacun y va de son inspiration.
Ils doivent prendre l'exemple de celui-là qui était le plus vieux au pouvoir.
Comme qui, par exemple, selon vous?
On ne cite pas les contemporains.
Que tout le monde installe dans son pays la démocratie 5 ans renouvelable une fois. Si tu as fait des 5 ans, si tu n'as pas bien géré, on te met à côté.
Au cours d'une conférence de presse en juillet 2015 au Palais de l'Unité à Yaoundé, lors de la visite de François Hollande au Cameroun, Paul Biya semblait narguer ses détracteurs sur sa longévité au pouvoir.
Ne dure pas au pouvoir qui peut, mais dure qui peut.
Le 6 novembre dernier, cela faisait 35 ans que Paul Biya accédait au pouvoir et personne ne sait si, à 86 ans, il se présentera ou pas à la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2018. Yaoundé, Emmanuel Jolunta, VOA Afrique.
Les restes de l'Australopithèque Abel, un hominidé vieux de 3,5 millions d'années, sont de retour au Tchad après avoir été étudiés pendant 4 ans en France. Qui est Abel et qu'ont-elle permis de découvrir ses recherches en France? Eh bien, Morgane Guériec a joint Mahmoud Youssouf Kayar, physicien et directeur général du Centre national de recherche pour le développement à N'Djamena.
Abel, c'est un fossile découvert au Tchad, dans la région de Korotoro, le désert du Tchad.
Les restes de l'Australopithèque Abel sont de retour au Tchad. Qu'ont apporté les recherches en France?
En 1995, Brunet a découvert une partie du mandibule d'Abel. Le professeur Lucus, un Tchadien, en 2012, et ils ont découvert dans la même place le reste qui vient compléter maintenant la mandibule. Ils ont bien fait ressortir que ça, c'est la suite logique du mandibule d'Abel. Maintenant, le professeur Brunet prend encore d'autres échantillons. Il partira, il va les étudier parce que là-bas, il y a des canards de très, très haut niveau.
Abel hein, est vieux de 3,5 millions d'années. Comment est-ce qu'il vivait à cette époque?
Je ne pense pas qu'il lui faut beaucoup de choses pour vivre. C'est le premier humilité que nous avons trouvé. Et les hominidés se nourrissent à peu près comme les singes, un peu de la viande, un peu de verdure. Ils chassent, ils peuvent utiliser ses mains. Ça, c'est les éléments que nous sommes en train de chercher, etc., pour prouver que ces hominidés sont intelligents.
Abel est plus âgé que la fameuse Lucie découverte en Éthiopie.
Oui, maintenant, il n'y a pas de doute. Abel fait 3 millions et demi, mais Toumaï, il fait 7 millions d'années. Et il est découvert au Tchad. Et Toumaï est le plus ancien hominidé qui fait 7 millions. Or que Lucie fait que 3 millions d'années.
Abel, vieux de 3 millions d'années et demi. Toumaï, on est carrément à 7 millions. Et les deux ont été découverts au Tchad. Ça en dit long quand même sur au la Tchad. Région en matière d'histoire.
Effectivement. Toumaï est le plus vieux au Ménédic. Donc le Tchad, c'est le berceau de l'humanité.
Et pourquoi le Tchad? Est-ce qu'il y a une raison particulière?
Parce que le lac Tchad s'étend sur 2 millions et demi de kilomètres carrés. Le lac Tchad, toute la civilisation du monde en ces temps, jusqu'à des années, des milliers et des milliers d'années, on peut dire jusqu'à des millions d'années, du lac Tchad jusqu'au Nil, c'était les coins les plus favorables, que l'environnement était propice pour que l'humanité avancerait normalement.
C'était Mahmoud Youssouf Kayar, physicien et directeur général du Centre national des recherches pour le développement à N'Djamena.
Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Ici aux États-Unis, le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé lundi l'abrogation du statut de protection temporaire, TPS, pour les Haïtiens arrivés illégalement dans le pays depuis le tremblement de terre dévastateur de 2010. La décision ouvre la porte à plusieurs expulsions à partir de juillet 2019. Arzuma Compaoré a joint Maître Ralph François, avocat au barreau de Floride, pour plus de détails.
Le TPS, c'est ce qu'on appelle un statut temporaire protégé. Et la plupart de ces immigrants, ce sont peut-être des Haïtiens qui sont rentrés aux États-Unis légalement avec un visa. Ce sont également des Haïtiens qui sont rentrés aux États-Unis qu'on avait fait rentrer tout de suite après la catastrophe du 12 janvier 2010. Donc, il y a un volume d'Haïtiens qui était déjà là sur visa légalement aux États-Unis que lorsque, après la catastrophe, et le gouvernement américain a vu nécessaire, c'était le gouvernement de M. Obama, de leur offrir un statut temporaire protégé. Donc, ce statut depuis 2010, maintenant, va prendre fin en juillet 2019. Cette nouvelle peut créer quand même une certaine panique, mais cependant, dans l'ensemble, ces 18 mois doivent être utilisés à bon escient pour ces personnes concernées pour qu'ils puissent s'arranger et s'organiser.
La nature même de cette mesure précise qu'elle est temporaire. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui était prévisible?
Il était prévisible que M. Trump aurait terminé cette histoire tout bonnement et que je pense au niveau de la communauté haïtienne, ces 18 mois, c'est quand même 18 mois de sursis qu'on pourrait utiliser. C'est quand même une bonne chose dans une certaine mesure. Le TPS, c'est un acte de l'exécutif, c'est comme un décret. Donc, le Congrès américain pourrait venir avec une certaine loi ou bien ce qu'on appelle aux États-Unis un rider. C'est-à-dire qu'il y a M. Trump qui essaie de pousser la loi sur la fiscalité. Une branche du Congrès pourrait quand même inclure des aspects de l'immigration dans cette loi de fiscalité et donner quand même un soulagement, non seulement aux Haïtiens, mais également à un nombre imposant d'immigrants.
Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, le sénateur républicain Marco Rubio avait rappelé que les transferts d'argent de la communauté haïtienne contribuent à une hauteur de 25% du PIB de l'île. Qu'est-ce que cela va représenter d'avoir ces 60 000 Haïtiens retournés chez eux?
Et ces 50 000 Haïtiens ne vont pas retourner. Bon, il faut être clair, ils ne vont pas retourner. Parmi ces 50 000 Haïtiens, nombreux se sont déjà arrangés pour avoir un statut définitif. Et pendant ces 18 mois, ils vont maintenant se mobiliser et faire le nécessaire pour arranger leur statut. Donc à ce niveau-là, en termes de chiffres, je ne peux pas le dire, mais cependant, la tendance, c'est quand même de s'arranger pour rester aux États-Unis.
Maître Ralph François, avocat au barreau de la Floride. Comme je le disais en début d'émission, les Américains célèbrent aujourd'hui le Thanksgiving, la journée d'action de grâce, au cours de laquelle familles et amis se réunissent autour de la dinde traditionnelle. La signification de cette fête avec des membres de la diaspora africaine aux États-Unis.
Salut, je m'appelle Étienne Yoli. Pour moi, Thanksgiving, c'est en fait une fête de reconnaissance envers le Créateur. La première fois que j'ai pris connaissance avec cette fête, c'était à Ouagadougou avec des amis américains. Et chacun devait, à tour de rôle, dire il était reconnaissant de quoi. La famille, les gens participent. Et le jour, généralement, c'est le papa qui coupe le dindon. Et on partage les plats sucrés, les gens sont vraiment contents. C'est vraiment magnifique.
Je suis Safia Touba. Thanksgiving, pour moi, c'est d'abord une fête américaine, c'est-à-dire une occasion de passer du temps avec sa famille et ses amis, et en même temps remercier cette dame de faire partie de ta vie, de leur soutien. En fait, c'est pas une fête commerciale, comme c'est une fête de retrouvailles, et le plus important, c'est ça.
Je m'appelle Mamadou Baye. On célèbre la fête de Thanksgiving souvent avec les amis, en famille, et puis on se retrouve, on mange, on discute, puis des fois, on va chez des amis américains, comme chaque année. C'est une très bonne tradition parce que ça nous rappelle les fêtes de chez nous, comme la fête de Tabaski.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albusson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.